La Société des Compagnons pour l'Évangile présente la Confession de foi de La Rochelle par le pasteur Pierre Courtial, cours pour laïcs donné par le Centre de formation chrétienne à la Faculté de théologie protestante de Paris.
Article 9 à 15. Nous croyons que l'homme qui a été créé pur, sans la moindre tache et conforme à l'image de Dieu, et par sa propre faute, déchu de la grâce qu'il avait reçue. Il s'est ainsi séparé de Dieu, qui est la source de toute justice et de tout bien, au point que sa nature est désormais entièrement corrompue. Nous croyons que l'homme, étant aveuglé dans son esprit et dépravé dans son cœur, a perdu toute intégrité sans en avoir aucun reste, bien qu'il ait encore quelque discernement du bien et du mal. Nous disons néanmoins que la lumière qui subsiste en lui se change en ténèbres quand il est question de chercher Dieu, de sorte qu'il n'en peut nullement approcher par son intelligence et sa raison. Quoique l'homme est une volonté par laquelle il est incité à faire ceci ou cela, nous croyons toutefois qu'elle est totalement prisonnière du péché, en sorte qu'il n'a de liberté à bien faire que celle que Dieu lui donne. Nous croyons que toute la descendance d'Adam est infectée de cette souillure du péché originel qui est un fils héréditaire, et non pas seulement une imitation, comme les Pélagiens dont nous réprouvons les erreurs l'ont enseigné. Nous n'estimons pas qu'il soit nécessaire de rechercher comment le péché se transmet d'un homme à sa descendance, car il nous suffit de savoir que ce que Dieu avait donné à Adam n'était pas pour lui seul, mais pour toute sa postérité avec lui, et qu'ainsi, en la personne même d'Adam, nous avons été dépouillés de tout bien et sommes tombés dans une indigence extrême et dans la malédiction. Nous croyons aussi que ce vice du péché originel est péché, au sens propre du mot, qu'il suffit à condamner tout le genre humain, jusqu'aux petits enfants, dès le sein maternel, et que Dieu le considère comme tel. Nous croyons même qu'après le baptême, le péché originel est toujours péché quant à la culpabilité, bien que la condamnation en soit abolie dans les enfants de Dieu, Dieu ne la leur imputant plus par sa bonté gratuite. Nous croyons aussi que le péché originel est une perversion qui produit toujours des fruits de corruption et de révolte, tels que les hommes les plus saints, quoiqu'ils y résistent, ne laissent point d'être entachés de faiblesse et de faute tant qu'ils habitent en ce monde. Il y a dans cet ensemble d'articles l'expression de ce que l'on peut appeler le pessimisme de la Bible, le pessimisme du christianisme quant à l'homme. Et rien n'est plus contraire à notre orgueil que cette affirmation de la Bible et de la foi, à savoir celle de la corruption du péché. Mais je dirais que ce pessimisme n'est pas vraiment un pessimisme dans la mesure où le tableau que nous en donne la Bible, comme le tableau que nous en donne la confession de foi, n'a pas pour but de nous y figer, de nous y restreindre, mais veut nous montrer au fond de quelles ténèbres et de quelle corruption et de quelle perdition et de quels abîmes Dieu nous sauve en Jésus-Christ. Et si l'Église a reçu de Dieu la mission de parler aux hommes de péché et de jugement, c'est pour faire prendre conscience à tous ceux que Dieu appellera en aussi grand nombre qu'il les appellera de la merveille de la grâce de Dieu et de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est très caractéristique d'ailleurs dans le catéchisme de Heidelberg, qui est le meilleur catéchisme de la réforme et qui exprime la foi des églises réformées avec tant d'éclat. La première partie, qui s'appelle « La misère de l'homme », est une partie extrêmement brève. C'est une partie très brève. C'est une toute petite partie du catéchisme. Il est bon, il est nécessaire que l'homme sache où il en est, que l'homme sache ce qu'il est. Et il est non pas pessimiste, mais au contraire utile de saisir la vérité de ce qui nous est affirmé là. Essayons, si vous voulez bien, non pas de suivre dans le détail toutes les paroles de notre confession de foi, mais essayons une sorte de synthèse de ce qui nous est dit dans ces articles 9 à 11. D'abord, et le catéchisme tient à le souligner comme la confession de foi le fait, la misère de l'homme à l'homme pour auteur. Le péché de l'homme est la propre faute de l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme tel. La condition désespérée dans laquelle se trouve l'homme n'est pas du tout sa condition première. Dieu a créé l'homme pur, sans la moindre tâche, conforme à l'image de Dieu. Il est difficile de voir tout ce qu'implique cette notion biblique de l'image de Dieu. Et il est très nécessaire de saisir que l'image de Dieu est ce qui distingue radicalement l'homme de toutes les autres créatures. Dans le livre de la Genèse, il est souligné par rapport à l'image de Dieu deux choses. D'abord que l'homme a reçu de Dieu un mandat de domination sur l'ensemble de la création. Dieu créa l'homme à son image et lui ordonne non seulement de multiplier, de remplir la terre, mais de dominer la création. Et aussi, il nous est dit au sujet de l'image de Dieu que Dieu créa l'homme à son image, il le créa homme et femme. Si bien qu'il y a dans la pluralité humaine, en même temps que dans l'unité humaine, quelque chose qui correspond aussi à l'unité et à la pluralité de Dieu. Ce que nous avons essayé de dire il y a 15 jours en parlant de la Trinité. Donc, ce qu'est l'image de Dieu en l'homme, ou plutôt ce qu'est l'homme image de Dieu, c'est quelque chose de mystérieux et qui nous reste d'autant plus mystérieux que nous sommes déchus. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus bien savoir profondément, existentiellement, ce que c'était et ce que c'est que d'être à l'image de Dieu. Au fond, l'homme à l'image de Dieu, nous ne le trouvons plus dans l'Écriture et dans l'histoire qu'en Jésus-Christ. Et quand Pilate dit, montrant Jésus aux Juifs, « Voici l'homme », c'est vraiment l'homme dans sa réalité d'image de Dieu qui est placé devant nous. Jésus-Christ est l'homme à l'image de Dieu. Et nous ne pouvons pas savoir tout le contenu de cette image de Dieu, tout ce qu'implique cette notion d'image de Dieu, justement parce que nous sommes déchus, justement parce que l'image de Dieu est défigurée, abîmée, brisée en nous. Mais Dieu a créé l'homme à son image. Et l'homme est dans une relation particulière avec Dieu. Et cette relation particulière avec Dieu constitue le fond de ce qu'est l'homme, la vocation de l'homme dans l'unité et la diversité de son être. Si l'homme est déchu, c'est par sa propre faute et il s'est séparé de Dieu. Séparé de Dieu sur le plan spirituel, car l'homme ne peut être séparé de Dieu sur le plan de son existence. Il n'a d'existence que par Dieu. Il ne vit que parce que Dieu, dans sa patience et sa bonté, le maintient en vie. Il n'est donc pas séparé de Dieu au sens qu'il serait devenu autonome par rapport à Dieu. Mais il est séparé de Dieu en ce sens qu'il n'y a plus entre Dieu et l'homme cette communion, cette amitié, ce rapport si intime et si prochain qu'il y avait après la création. Depuis la chute, quelque chose s'est brisé, une séparation s'est établie. Et nous avons d'ailleurs l'indication de celui qui a ainsi séparé, divisé, dans le mot même que porte l'ennemi de Dieu, le diable, diabolos, c'est celui qui divise, c'est celui qui sépare. Eh bien, le diable est venu par la chute mettre la division entre Dieu et l'homme, entre l'homme et la femme, entre le frère et le frère. Il est venu mettre partout la division, il est venu séparer. Et l'homme est séparé de Dieu au sens spirituel. Il n'a plus naturellement avec Dieu cette communion qui était la sienne avant la chute. Et la nature de l'homme est désormais entièrement corrompue. Sur le mot « entièrement », je m'arrêterai une seconde pour dire que cet « entièrement » ne signifie pas « absolument ». Il n'est pas dit que la nature de l'homme est désormais absolument corrompue. Pourquoi ? Parce que l'entièrement se rapporte à l'extension du péché. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune part de l'homme, aucune sphère de l'existence humaine qui soit en dehors du péché. Le péché a atteint l'homme tout entier. Il a atteint l'homme dans son intelligence, dans sa volonté, dans son cœur, dans son corps. L'homme est entièrement corrompu. Mais par la grâce, non pas rédemptrice, mais générale de Dieu, Dieu a veillé à mettre des bornes à l'intensité du péché. On peut dire que l'homme est entièrement corrompu extensivement, mais il n'est pas entièrement corrompu intensivement parce que Dieu a mis quelques limites et quelques bornes dans sa bonté, dans sa patience, à l'extension intensive du péché. Le péché corrompt l'homme dans la totalité de son être, mais le péché ne démonise pas l'homme. Ne va pas jusqu'à faire de l'homme une créature intensivement corrompue. C'est d'ailleurs indiqué dans notre confession de foi, quand il est dit que l'homme a encore quelques discernements du bien et du mal. Il y a une lumière de Dieu qui brille dans le cœur de tout homme et qui continue à briller dans le cœur de tout homme, de même que la lumière de Dieu continue à briller dans l'ensemble de la création. Mais le péché de l'homme agit en telle sorte que la lumière qui subsiste en l'homme se change en ténèbres. De même que la lumière de la révélation générale de Dieu se change en ténèbres. Dieu fait éclater sa révélation dans tout l'univers, et l'homme fait partie de l'univers, et la révélation de Dieu éclate aussi dans le cœur de chaque homme, mais cette lumière qui subsiste dans le cœur de chaque homme est changée en ténèbres à cause du péché. Et il y a ainsi quelque chose de tragique en la vie, dans le cœur de chacun des hommes, en ce sens que Dieu est là, Dieu est tout près, Dieu d'une certaine manière est dans le cœur de l'homme comme il est tout autour de l'homme, mais voici que l'homme change cette lumière en ténèbres, préfère les ténèbres à la lumière, et l'homme ne veut pas voir cette lumière qui cependant brille autour de lui et en lui. Et c'est là quelque chose où il reste quelque chose de la grandeur de l'homme, et en même temps c'est toute la misère de l'homme. Il y a une note très précise dans notre confession de foi, c'est que notre intelligence et notre raison sont corrompues par le péché, comme est corrompue notre volonté. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas rationnellement trouver Dieu. Il n'y a pas une sorte de privilège de la raison qui établirait la raison de l'homme en dehors des atteintes du péché. Non, le péché agit jusque sur la raison de l'homme parce que c'est l'homme tout entier qui est séparé de Dieu, qui est détourné de Dieu, qui est désorienté par rapport à Dieu et qui préfère d'adorer et de servir la créature au lieu du Créateur. Et voici que l'homme qui est ainsi prisonnier du péché l'est depuis la chute d'Adam. Et il est significatif que notre confession de foi insiste sur la réalité du péché originel. Vous savez que on a l'habitude dans les églises de la Réforme, c'est très indiqué dans le catéchisme de Heidelberg, mais c'est aussi indiqué d'une certaine manière dans la confession de foi, de distinguer entre le péché originel et les péchés actuels. Le péché originel, on dit quelquefois, c'est le péché d'Adam. Ça n'est pas exact d'exprimer les choses ainsi. Certes, le péché originel remonte au péché qu'Adam et Ève ont commis lorsque, désobéissant à Dieu, ils ont voulu prendre la place de Dieu, se rendre autonome par rapport à lui, décider du bien et du mal, ce que la Genèse exprime en disant que l'homme et la femme ont goûté le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y a eu un péché d'Adam qui était un péché personnel et actuel d'Adam et d'Ève. Mais comme Adam était le chef et la tête et l'origine de l'humanité, il a entraîné avec lui, c'est l'affirmation de la Bible, toute l'humanité. Ça aussi, c'est une chose qui ne nous est pas tellement acceptable, car nous pensons souvent à l'humanité comme à un conglomérat d'individus. Et notre individualisme, ici, pousse des pointes. Nous n'aimons pas ce point de vue biblique selon lequel l'humanité est un corps. L'humanité n'est pas un conglomérat d'individus, mais un organisme. L'humanité est un tout. L'humanité est un ensemble. Et le poison inoculé avec Adam est un poison qui est répandu dans le corps tout entier. Évidemment, nous pouvons déplorer qu'il en soit ainsi, mais je dirais, c'est aussi ce qui fait que les hommes sont profondément solidaires. Les hommes ne sont pas des individus juxtaposés, mais les hommes sont dans une profonde solidarité. Cela n'exclut aucunement leur responsabilité personnelle, cela n'exclut aucunement leur personnalité, mais nous devons prendre garde que, selon la Bible, si chacun de nous a ses responsabilités personnelles, il y a aussi cependant un corps de l'humanité, un organisme de l'humanité. Et en la personne d'Adam, c'est l'humanité tout entière qui a péché et qui a été dépouillée de la grâce première et qui est tombée dans l'indigence et la malédiction. Et ceci est important à souligner parce que nous oublions très souvent à quel point l'humanité est un corps, à quel point l'humanité est une seule race, à quel point l'humanité est un ensemble. Et c'est d'ailleurs ce qu'il nous faut affirmer d'une manière très nette par rapport à tous ceux qui veulent récuser le monogénisme biblique et enseigner des polygénismes. C'est très important que l'humanité soit issue d'un seul couple, soit issue d'Adam et d'Ève, car c'est ce qui établit entre tous les hommes une réelle communauté, une réelle unité. Si le genre humain venait de plusieurs couples originaires séparés, si la race humaine venait, comme certains veulent l'enseigner, de plusieurs couples n'ayant rien de commun entre eux, que l'origine remontant le long d'une évolution à je ne sais quelle cellule perdue au fond des mers, à ce moment-là, c'est l'unité même corporative de l'humanité qui est niée. Et on peut même dire que les racismes pourraient trouver alors quelques justifications, parce qu'on pourrait penser que peut-être telle race humaine vient d'un couple plus supérieur, alors que telle autre race humaine viendrait d'un couple plutôt inférieur. Non, ce que la Bible affirme et ce que l'Église croit, parce que c'est ce que la parole de Dieu enseigne, c'est que l'humanité est une seule race, un seul ensemble. Et parce qu'à l'origine, la tête, le chef corporatif, fédératif de cet ensemble est tombé dans le péché, c'est toute l'humanité qui a été entraînée dans ce péché originel. Et ce péché originel porte alors ses fruits particuliers dans nos péchés personnels et actuels. Et bien sûr, on peut dire que si les enfants qui naissent, naissent porteurs du péché originel, ils ne portent pas, bien sûr, de péché actuel et personnel. Je dirais d'ailleurs qu'ils les portent, hélas, bien vite. Il suffit d'être parent pour s'en apercevoir. Mais nous avons un péché originel qui est le péché remontant à Adam et à Ève, et qui est le péché commun de l'ensemble du genre humain, le péché dans lequel nous avons tous une responsabilité corporative, collective, et puis il y a ensuite de ce péché originel, les péchés personnels, les péchés actuels dont chacun de nous est coupable et dont il doit s'accuser devant Dieu. Et nous avons enfin, et je m'arrêterai sur ce premier point aujourd'hui du péché, ce péché originel est un péché qui subsiste jusqu'à la mort. C'est un péché dont nous gardons en nous des traces. Nous sommes entachés de faiblesses et de fautes tant que nous habitons ici-bas. Et si le péché ne règne plus sur les enfants de Dieu, le péché continue cependant à habiter les enfants de Dieu. Et il y a dans le chrétien, c'est ce que montre saint Paul dans le chapitre 7 de la lettre aux Romains, il y a ce combat entre celui qui est né de Dieu et le péché qui subsiste en nous. Et le catéchisme de Heidelberg exprime cela autrement en disant que nous ne pouvons avoir jamais ici-bas qu'un petit commencement d'obéissance. Et le chrétien, quand il confesse sa faute à Dieu, que ce soit dans le culte public, que ce soit dans sa confession personnelle et privée, ou que ce soit dans la confession qu'il peut lui arriver de faire devant un frère ou un pasteur, quand il confesse sa faute, le chrétien confesse à la fois le péché originel dont il porte en commun avec l'ensemble du genre humain la responsabilité et les péchés personnels et actuels dont il est lui-même coupable. Ensuite, nous arrivons aux articles 12 à 15 qui concernent Jésus-Christ. Et la confession de foi de l'Église réformée commence par l'article 12 sur l'élection. De cette corruption et de cette condamnation générale où tous les hommes sont plongés, nous croyons que Dieu retire ceux que dans sa volonté éternelle et immuable, il a élus par sa seule bonté et miséricorde en notre Seigneur Jésus-Christ, et cela sans considération de leurs œuvres. Nous croyons qu'il laisse les autres dans cette même corruption et condamnation pour démontrer en eux sa justice, tout comme il fait briller dans les premiers les richesses de sa miséricorde. Car ceux-ci ne sont pas meilleurs que les autres jusqu'à ce que Dieu les distingue selon le dessein immuable qu'il a arrêté en Jésus-Christ avant la création du monde. Il n'est d'ailleurs personne qui puisse s'approprier un tel bien par ses propres moyens, puisque de nature nous ne pouvons avoir un seul bon mouvement, aucune bonne disposition de notre volonté, ni aucune bonne pensée jusqu'à ce que Dieu nous ait devancés et nous y ait disposés. Ce qu'il faut retenir de cet article 12, c'est la souveraineté de la grâce de Dieu. Le salut qu'apporte Jésus-Christ est un salut par grâce. Il ne gagne pas, il ne s'empare pas des meilleurs, mais sans considération des œuvres, c'est un salut qui peut s'emparer et se saisir irrésistiblement même des pires et même des plus mauvais. Et c'est pourquoi cet article, contrairement à ce que beaucoup pensent, est un article qui vraiment vient pour l'encouragement et la paix de ceux qui veulent l'écouter dans le sens où il a été écrit. Quand nos pères, au synode de Paris, ont décidé de voter et de faire leur cet article, ils ont voulu affirmer que le salut venait de Dieu, que tout était de Dieu, que Dieu seul sauvait, et que vraiment Dieu était sauveur, non pas sauveteur, non pas auxiliaire du salut, mais vraiment sauveur. Ceux que Dieu veut sauver, il les sauve. Et nul de ceux que Dieu sauve ne peut penser qu'il est meilleur que les autres, ou que cela vient d'une manière ou d'une autre, un petit peu de lui. Tout est de de Dieu, tout est de la grâce de Dieu. Par nos propres moyens, par nos mouvements, nos dispositions, notre volonté et nos pensées, nous ne pouvons pas nous approprier le salut. Si nous sommes sauvés, c'est que Dieu nous a devancés et qu'il nous a disposés. Et c'est que Dieu veut faire éclater en nous les richesses de sa miséricorde.